Sodome et Gomorre, deuxième partie.
Chapitre 1.
Suite 3. J'avais grande envie de savoir ce qui s'était exactement passé entre le prince et Swann, et de voir ce dernier, s'il n'avait pas encore quitté la soirée. « Je vous dirai, » me répondit la princesse, à qui je parlais de ce désir, « que moi, je ne tiens pas excessivement à le voir, parce qu'il paraît, d'après ce qu'on m'a dit tout à l'heure chez Madame de Sainte-Verte, qu'il voudrait, avant de mourir, que je fasse la connaissance de sa femme et de sa fille. Mon Dieu, ça me fait une peine infinie qu'il soit malade. Mais d'abord, j'espère que ce n'est pas aussi grave que ça. » Et puis enfin, ce n'est tout de même pas une raison, parce que ce serait vraiment trop facile. Un écrivain sans talent n'aurait qu'à dire « Votez pour moi à l'Académie parce que ma femme va mourir et que je veux lui donner cette dernière joie. » Il n'y aurait plus de salon si on était obligé de faire la connaissance de tous les mourants. Mon cocher pourrait me faire valoir. Ma fille est très mal, faites-moi recevoir chez la princesse de Parme. J'adore Charles, et cela me ferait beaucoup de chagrin de lui refuser. Aussi, est-ce pour cela que j'aime mieux éviter qu'il me le demande. J'espère de tout mon cœur qu'il n'est pas mourant, comme il le dit. Mais vraiment, si cela devait arriver, ce ne serait pas le moment pour moi de faire la connaissance de ces deux créatures, qui m'ont privé du plus agréable de mes amis pendant 15 ans. Et qu'il me laisserait pour compte une fois que je ne pourrais même pas en profiter pour le voir lui, puisqu'il serait mort. » Mais M. de Bréauté n'avait cessé de ruminer le démenti que lui avait infligé le colonel de Frobertville. « Je ne doute pas de l'exactitude de votre récit, mon cher ami, » dit-il, « mais je tenais le mien de bonne source. C'est le prince de la Tour d'Auvergne qui me l'avait narré. » « Je m'étonne qu'un savant comme vous dise encore « le prince de la Tour d'Auvergne !» interrompit le duc de Guermantes. « Vous savez qu'il ne l'est pas le moins du monde. Il n'y a plus qu'un seul membre de cette famille, c'est l'oncle Dorian, le duc de Bouillon. » « Le frère de Madame de Villeparisis ? » demandai-je, me rappelant que celle-ci était une demoiselle de Bouillon. « Parfaitement !» Oriane, Madame de Lambressac vous dit bonjour. » En effet, on voyait par moments se former et passer comme une étoile filante un faible sourire destiné par la duchesse de Lambressac à quelques personnes qu'elle avait reconnues. Mais ce sourire, au lieu de se préciser en une affirmation active, en un langage muet mais clair, se noyait presque aussitôt en une sorte d'extase idéale qui ne distinguait rien, tandis que la tête s'inclinait en un geste de bénédiction béate, rappelant celui qu'incline vers la foule des communiantes, un prélat un peu ramolli. Madame de Lambressac ne l'était en aucune façon, mais je connaissais déjà ce genre particulier de distinction désuète. À Combray et à Paris, toutes les amies de ma grand-mère avaient l'habitude de saluer, dans une réunion mondaine, d'un air aussi séraphique que si elles avaient aperçu quelqu'un de connaissance à l'église, au moment de l'élévation ou pendant un enterrement, et lui jetaient mollement un bonjour qui s'achevait en prière. Or, une phrase de M. de Guermantes allait compléter le rapprochement que je faisais. « Mais vous avez vu le duc de Bouillon ?» me dit M. de Guermantes. Il sortait tantôt de ma bibliothèque, comme vous y entriez, un monsieur court de taille et tout blanc. C'était celui que j'avais pris pour un petit bourgeois de Combray, et dont maintenant, à la réflexion, je dégageais la ressemblance avec Madame de Villeparisis. La similitude des saluts évanescents de la duchesse de Lambressac avec ceux des amis de ma grand-mère avait commencé de m'intéresser, en me montrant que, dans les milieux étroits et fermés, qu'ils soient de petite bourgeoisie ou de grande noblesse, les anciennes manières persistent, nous permettant, comme à un archéologue, de retrouver ce que pouvait être l'éducation et la part d'âme qu'elle reflète, au temps du vicomte d'Arlincourt et de Loïsa Puget. Mieux maintenant, la parfaite conformité d'apparence entre un petit bourgeois de Combray de son âge et le duc de Bouillon me rappelait, ce qui m'avait déjà tant frappé quand j'avais vu le grand-père maternel de Saint-Loup, le duc de La Rochefoucauld, sur un daguerréotype, où il était exactement pareil comme vêtement, comme air et comme façon à mon grand-oncle. Que les différences sociales, voire individuelles, se fondent à distance dans l'uniformité d'une époque. La vérité est que la ressemblance des vêtements et aussi la réverbération par le visage de l'esprit de l'époque tiennent, dans une personne, une place tellement plus importante que sa caste, en occupe une grande seulement dans l'amour-propre de l'intéressé et l'imagination des autres, que, pour se rendre compte qu'un grand seigneur du temps de Louis-Philippe est moins différent d'un bourgeois du temps de Louis-Philippe que d'un grand seigneur du temps de Louis XV. Il n'est pas nécessaire de parcourir les galeries du Louvre. À ce moment, un musicien bavarois à grands cheveux, que protégeait la princesse de Guermantes, salua Oriane. Celle-ci répondit par une inclinaison de tête, mais le duc, furieux de voir sa femme dire bonsoir à quelqu'un qu'il ne connaissait pas, qui avait une touche singulière, et qui, autant que M. de Guermantes croyait le savoir, avait fort mauvaise réputation, se retourna vers sa femme d'un air interrogateur et terrible, comme s'il disait « Qu'est-ce que c'est que cet ostrogoth-là » La situation de la pauvre Madame de Guermantes était déjà assez compliquée. Et si le musicien eût eu un peu pitié de cette épouse martyre, il se serait au plus vite éloigné. Mais, soit désir de ne pas rester sur l'humiliation qui venait de lui être infligée en public, au milieu des plus vieux amis du cercle du duc, desquels la présence avait peut-être bien motivé un peu sa silencieuse inclinaison, et pour montrer que c'était à bon droit, et non sans la connaître, qu'il avait salué Madame de Guermantes, soit obéissant à l'inspiration obscure et irrésistible de la gaffe qui le poussa, dans un moment où il eût dû se fier plutôt à l'esprit, à appliquer la lettre même du protocole, le musicien s'approcha davantage de Madame de Guermantes et lui dit « Madame la Duchesse, je voudrais solliciter l'honneur d'être présentée au duc. » Madame de Guermantes était bien malheureuse. Mais enfin, elle avait beau être une épouse trompée, elle était tout de même la duchesse de Guermantes et ne pouvait avoir l'air d'être dépouillée de son droit de présenter à son mari les gens qu'elle connaissait. « Bazin, dit-elle, permettez-moi de vous présenter M. Derouek. » « Je ne vous demande pas si vous irez demain chez Madame de Sainte-Verte, » dit le colonel de Froberville à Madame de Guermantes pour dissiper l'impression pénible produite par la requête intempestive de M. Derouek. « Tout Paris y sera. » Cependant, se tournant d'un seul mouvement et comme d'une seule pièce vers le musicien indiscret, le duc de Guermantes, faisant front, monumental, muet, courroucé, pareil à Jupiter tonnant, resta immobile ainsi quelques secondes, les yeux flambants de colère et d'étonnement, ses cheveux crépelés semblant sortir d'un cratère. Puis, comme dans l'emportement d'une impulsion qui seule lui permettait d'accomplir la politesse qui lui était demandée, et après avoir semblé par son attitude de défi attester toute l'assistance qu'il ne connaissait pas le musicien bavarois, croisant derrière le dos ses deux mains gantées de blanc, il se renversa en avant et asséna au musicien un salut si profond, empreint de tant de stupéfaction et de rage, si brusque, si violent, que l'artiste tremblant recula, tout en s'inclinant, pour ne pas recevoir un formidable coup de tête dans le ventre. Mais c'est que, justement, je ne serai pas à Paris, répondit la duchesse au colonel de Froberville. Je vous dirai, ce que je ne devrais pas avouer, que je suis arrivée à mon âge sans connaître les vitraux de Montfort-l'Amaury. C'est honteux, mais c'est ainsi. Alors, pour réparer cette coupable ignorance, je me suis promis d'aller demain les voir. Monsieur de Bréauté sourit finement. Il comprit en effet que si la duchesse avait pu rester jusqu'à son âge sans connaître les vitraux de Montfort-l'Amaury, cette visite artistique ne prenait pas subitement le caractère urgent d'une intervention à chaud et eût pu sans péril, après avoir été différée pendant plus de 25 ans, être reculée de 24 heures. Le projet qu'avait formé la duchesse était simplement le décret rendu, dans la manière des Guermantes, que le salon Sainte-Verte n'était décidément pas une maison vraiment bien, mais une maison où on vous invitait pour se parer de vous, dans le compte-rendu du Gaulois. Une maison qui décernerait un cachet de suprême élégance à celle, ou en tout cas à celle, si elle n'était qu'une, qu'on n'y verrait pas. Le délicat amusement de Monsieur de Bréauté, doublé de ce plaisir poétique qu'avaient les gens du monde à voir Madame de Guermantes faire des choses que leur situation moindre ne leur permettait pas d'imiter, mais dont la vision seule leur causait le sourire du paysan attaché à sa glèbe qui voit des hommes plus libres et plus fortunés passer au-dessus de sa tête, ce plaisir délicat n'avait aucun rapport avec le ravissement dissimulé, mais éperdu, qu'éprouva aussitôt M. de Froberville. Les efforts que faisait M. de Froberville pour qu'on n'entendît pas son rire l'avaient fait devenir rouge comme un coq, et malgré cela, c'est en entrecoupant ces mots de hoc et de joie qu'il s'écria d'un ton miséricordieux. « Oh, pauvre tante Sainte-Verte, elle va en faire une maladie. Non, la malheureuse femme ne va pas avoir sa duchesse. Quel coup! Mais il y a de quoi la faire crever !» ajouta-t-il en se tordant de rire. Et dans son ivresse, il ne pouvait s'empêcher de faire des appels de pied et de se frotter les mains. Souriant d'un œil et d'un seul coin de la bouche à M. de Froberville, dont elle appréciait l'intention aimable, mais moins tolérable le mortel ennui, Madame de Guermantes finit par se décider à le quitter. « Écoutez, je vais être obligée de vous dire bonsoir, » lui dit-elle en se levant, d'un air de résignation mélancolique, et comme si ça avait été pour elle un malheur. Sous l'incantation de ses yeux bleus, sa voix doucement musicale faisait penser à la plainte poétique d'une fée. « Bazin veut que j'aille voir un peu Marie. » En réalité, elle en avait assez d'entendre Froberville, lequel ne cessait plus de l'envier d'aller à Montfort-l'Amaury, quand elle savait fort bien qu'il entendait parler de ses vitraux pour la première fois, et que, d'autre part, il n'eût pour rien au monde lâché la matinée Sainte-Verte. « Adieu, je vous ai à peine parlé. C'est comme ça dans le monde. On ne se voit pas, on ne dit pas les choses qu'on voudrait se dire. Du reste, partout, c'est la même chose dans la vie. Espérons qu'après la mort, ce sera mieux arrangé. Au moins, on n'aura toujours pas besoin de se décolleter. Mais encore, qui sait? On exhibera peut-être ses os et ses vers pour les grandes fêtes. Pourquoi pas? Tenez, regardez la mère Rampillon. Trouvez-vous une très grande différence entre ça et un squelette en robe ouverte? Il est vrai qu'elle a tous les droits, car elle a au moins 100 ans. Elle était déjà un des monstres sacrés devant lesquels je refusais de m'incliner quand j'ai fait mes débuts dans le monde. Je la croyais morte depuis très longtemps. Ce qui serait d'ailleurs la seule explication du spectacle qu'elle nous offre. C'est impressionnant et liturgique. C'est du Campo Santo. » La duchesse avait quitté Froberville. Il se rapprocha. « Je voudrais vous dire un dernier mot. » Un peu agacée. « Qu'est-ce qu'il y a encore? lui dit-elle avec hauteur. Et lui, ayant craint qu'au dernier moment elle ne se ravisât pour Montfort la Maurie, je n'avais pas osé vous en parler à cause de Madame de Sainte-Verte, pour ne pas lui faire de peine. Mais, puisque vous ne comptez pas y aller, je puis vous dire que je suis heureux pour vous, car il y a de la rougeole chez elle. « Oh, mon Dieu !» dit Oriane, qui avait peur des maladies. « Mais pour moi, ça ne fait rien, je l'ai déjà eu. On ne peut pas l'avoir deux fois. » « Ce sont les médecins qui disent ça. Je connais des gens qui l'ont eu jusqu'à 4. Enfin, vous êtes avertis. » Quant à lui, cette rougeole fictive, il eût fallu qu'il l'eût réellement, et qu'elle l'eût cloué au lit pour qu'il se résignât à manquer la fête Sainte-Verte, attendue depuis tant de mois. Il aurait le plaisir d'y voir tant d'élégance, le plaisir plus grand d'y constater certaines choses ratées, et surtout celui de pouvoir longtemps se vanter d'avoir frayé avec les premières et, en les exagérant ou en les inventant, de déplorer les secondes. Je profitais de ce que la duchesse changeait de place pour me lever aussi, afin d'aller vers le fumoir m'informer de Swann. « Ne croyez pas un mot de ce qu'a raconté Babal, » me dit-elle. Jamais la petite Molé ne serait allée se fourrer là-dedans. On nous dit ça pour nous attirer. Ils ne reçoivent personne et ne sont invités nulle part. Lui-même l'avoue. Nous restons tous les deux seuls au coin de notre feu. Comme il dit toujours nous, non pas comme le roi, mais pour sa femme, je n'insiste pas. Mais je suis très renseignée, » ajouta la duchesse. Elle et moi, nous croisâmes deux jeunes gens, dont la grande et dissemblable beauté tirait d'une même femme son origine. C'étaient les deux fils de Madame de Surgy, la nouvelle maîtresse du duc de Guermantes. Ils resplendissaient des perfections de leur mère, mais chacun d'une autre. En l'un avait passé, ondoyant en un corps viril, la royale prestance de Madame de Surgy. Et la même pâleur ardente, roussâtre et sacrée, affluait aux joues marmoréennes de la mère et de ce fils. Mais son frère avait reçu le front grec, le nez parfait, le cou de statue, les yeux infinis. Ainsi faite de présents divers que la déesse avait partagés, leur double beauté offrait le plaisir abstrait de penser que la cause de cette beauté était en dehors d'eux. On eût dit que les principaux attributs de leur mère s'étaient incarnés en deux corps différents, que l'un des jeunes gens était la statue de sa mère et son teint, l'autre son regard, comme les êtres divins qui n'étaient que la force et la beauté de Jupiter ou de Minerve. Plein de respect pour M. de Guermantes, dont il disait « C'est un grand ami de nos parents. » L'aîné, cependant, crut qu'il était prudent de ne pas venir saluer la duchesse, dont il savait, sans en comprendre peut-être la raison, l'inimitié pour sa mère, et, à notre vue, il détourna légèrement la tête. Le cadet, qui imitait toujours son frère, parce qu'étant stupide et de plus myope, il n'osait pas avoir d'avis personnel, pencha la tête selon le même angle, et ils se glissèrent tous deux vers la salle de jeu, l'un derrière l'autre, pareils à deux figures allégoriques. Au moment d'arriver à cette salle, je fus arrêtée par la marquise de Citry, encore belle, mais presque l'écume aux dents. D'une naissance assez noble, elle avait cherché et fait un brillant mariage en épousant M. de Citry, dont l'arrière-grand-mère était au mal Lorraine. Mais aussitôt cette satisfaction éprouvée, son caractère négateur lui avait fait prendre les gens du grand monde en une horreur qui n'excluait pas absolument la vie mondaine. Non seulement, dans une soirée, elle se moquait de tout le monde, mais cette moquerie avait quelque chose de si violent que le rire même n'était pas assez âpre et se changeait en guttural sifflement. « Ah ! me dit-elle en me montrant la duchesse de Guermantes qui venait de me quitter et qui était déjà un peu loin. Ce qui me renverse, c'est qu'elle puisse mener cette vie-là. Cette parole était-elle d'une sainte furibonde et qui s'étonne que les gentils ne viennent pas d'eux-mêmes à la vérité? Ou bien d'une anarchiste en appétit de carnage? En tout cas, cette apostrophe était aussi peu justifiée que possible. D'abord, la vie que menait Madame de Guermantes différait très peu, à l'indignation près, de celle de Madame de Sitry. Madame de Sitry était stupéfaite de voir la duchesse capable de ce sacrifice mortel, assister à une soirée de Marie Gilbert. Il faut dire, dans le cas particulier, que Madame de Sitry aimait beaucoup la princesse, qui était en effet très bonne, et qu'elle savait, en se rendant à sa soirée, lui faire grand plaisir. Aussi avait-elle décommandé, pour venir à cette fête, une danseuse à qui elle croyait du génie et qui devait l'initier au mystère de la chorégraphie russe. Une autre raison qui ôtait quelque valeur à la rage concentrée qu'éprouvait Madame de Sitry en voyant Oriane dire bonjour à tel ou tel invité, est que Madame de Guermantes, bien qu'à un état beaucoup moins avancé, présentait les symptômes du mal qui ravageait Madame de Sitry. On a, du reste, vu qu'elle emportait les germes de naissance. Enfin, plus intelligente que Madame de Sitry, Madame de Guermantes aurait eu plus de droit qu'elle à ce nihilisme, qui n'était pas que mondain. Mais il est vrai que certaines qualités aident plutôt à supporter les défauts du prochain qu'elles ne contribuent à en faire souffrir. Et un homme de grand talent prêtera d'habitude moins d'attention à la sottise d'autrui que ne ferait un sot. Nous avons assez longuement décrit le genre d'esprit de la duchesse, pour convaincre que, s'il n'avait rien de commun avec une haute intelligence, il était du moins de l'esprit adroit à utiliser, comme un traducteur, différentes formes de syntaxe. Or, rien de tel ne semblait qualifier Madame de Sitry à mépriser des qualités tellement semblables aux siennes. Elle trouvait tout le monde idiot. Mais dans sa conversation, dans ses lettres, se montrait plutôt inférieure aux gens qu'elle traitait avec tant de dédain. Elle avait du reste un tel besoin de destruction que, lorsqu'elle eut à peu près renoncé au monde, les plaisirs qu'elle rechercha alors subirent l'un après l'autre son terrible pouvoir dissolvant. Après avoir quitté les soirées pour des séances de musique, elle se mit à dire « Vous aimez entendre cela, de la musique ? Ah, mon Dieu, cela dépend des moments. Mais ce que cela peut être ennuyeux ! Ah, Beethoven, la barbe ! » Pour Wagner, puis pour Franck, pour Debussy, elle ne se donnait même pas la peine de dire « la barbe !» mais se contentait de faire passer sa main, comme un barbier, sur son visage. Bientôt, ce qui fut ennuyeux, ce fut tout. C'est si ennuyeux, les belles choses. Ah, les tableaux, c'est à vous rendre fou. Comme vous avez raison, c'est si ennuyeux d'écrire des lettres. Finalement, ce fut la vie elle-même qu'elle nous déclara une chose rasante, sans qu'on sût bien où elle prenait son terme de comparaison. Je ne sais si c'est à cause de ce que la duchesse de Guermantes, le premier soir que j'avais dîné chez elle, avait dit de cette pièce, mais la salle de jeu ou fumoir, avec son pavage illustré, ses trépieds, ses figures de dieux et d'animaux qui vous regardaient, les sphinx allongés au bras des sièges, et surtout l'immense table en marbre ou en mosaïque émaillée, couverte de signes symboliques plus ou moins imités de l'art étrusque et égyptien, cette salle de jeu me fit l'effet d'une véritable chambre magique. Or, sur un siège approché de la table étincelante et augurale, Monsieur de Charlus, lui, ne touchant à aucune carte, insensible à ce qui se passait autour de lui, incapable de s'apercevoir que je venais d'entrer, semblait précisément un magicien, appliquant toute la puissance de sa volonté et de son raisonnement à tirer un horoscope. Non seulement comme à une pitié sur son trépied, les yeux lui sortaient de la tête, mais pour que rien ne vînt le distraire des travaux qui exigeaient la cessation des mouvements les plus simples, il avait, pareil à un calculateur qui ne veut rien faire d'autre tant qu'il n'a pas résolu son problème, posé auprès de lui le cigare qu'il avait un peu auparavant dans la bouche et qu'il n'avait plus la liberté d'esprit nécessaire pour fumer. En apercevant les deux divinités accroupies que portait à ses bras le fauteuil placé en face de lui, on eût pu croire que le baron cherchait à découvrir l'énigme du sphinx, si ce n'avait pas été plutôt celle d'un jeune et vivant Oedipe, assis précisément dans ce fauteuil, où il s'était installé pour jouer. Or, la figure à laquelle M. de Charlus appliquait, et avec une telle contention, toutes ses facultés spirituelles, et qui n'était pas, à vrai dire, de celle qu'on étudie d'habitude more geometrico, c'était celle que lui proposaient les lignes de la figure du jeune marquis de Surgy. Elle semblait, tant M. de Charlus était profondément absorbé devant elle, être quelques mots en losange, quelques devinettes, quelques problèmes d'algèbre, dont il eût cherché à percer l'énigme ou à dégager la formule. Devant lui, les signes sibyllins et les figures inscrites sur cette table de la loi semblaient le grimoire qui allait permettre au vieux sorcier de savoir dans quel sens s'orientaient les destins du jeune homme. Soudain, il s'aperçut que je le regardais, leva la tête comme s'il sortait d'un rêve et me sourit en rougissant. À ce moment, l'autre fils de Madame de Surgy vint auprès de celui qui jouait, regarder ses cartes. Quand M. de Charlus eut appris de moi qu'ils étaient frères, son visage ne put dissimuler l'admiration que lui inspirait une famille créatrice de chefs-d'œuvre aussi splendides et aussi différents. Et ce qui eut ajouté à l'enthousiasme du baron, c'est d'apprendre que les deux fils de Madame de Surgy-le-Duc n'étaient pas seulement de la même mère, mais du même père. Les enfants de Jupiter sont dissemblables, mais cela vient de ce qu'il épousa d'abord Métis, dans le destin de qui il était de donner le jour à de sages enfants, puis Thémis, et ensuite Eurynome, et Mnémosyne, et Leto, et en dernier lieu seulement Junon. Mais d'un seul père, Madame de Surgy avait fait naître deux fils qui avaient reçu des beautés d'elle, mais des beautés différentes. J'eus enfin le plaisir que Swann entrât dans cette pièce, qui était fort grande, si bien qu'il ne m'aperçut pas d'abord. Plaisir mêlé de tristesse, d'une tristesse que n'éprouvaient peut-être pas les autres invités, mais qui, chez eux, consistait dans cette espèce de fascination qu'exercent les formes inattendues et singulières d'une mort prochaine, d'une mort qu'on a déjà, comme dit le peuple, sur le visage. Et c'est avec une stupéfaction presque désobligeante, où il entrait de la curiosité indiscrète, de la cruauté, un retour à la fois quiet et soucieux, mélange à la fois de « Suave Mari Magno » et de « Memento quia pulvis », eût dit Robert, que tous les regards s'attachèrent à ce visage duquel la maladie avait si bien rongé les joues, comme une lune décroissante que, sauf sous un certain angle, celui sans doute sous lequel Swann se regardait, elle tournait court comme un décor inconsistant auquel une illusion d'optique peut seule ajouter l'apparence de l'épaisseur. Soit à cause de l'absence de ses joues, qui n'étaient plus là pour le diminuer, soit que l'artériosclérose, qui est une intoxication aussi, le rougit comme eût fait l'ivrognerie, ou le déforma comme eût fait la morphine, le nez de polichinelle de Swann, longtemps résorbé dans un visage agréable, semblait maintenant énorme, tuméfié, cramoisi, plutôt celui d'un vieil hébreu que d'un curieux valois. D'ailleurs, peut-être chez lui, en ces derniers jours, la race faisait-elle apparaître plus accusé le type physique qui la caractérise, en même temps que le sentiment d'une solidarité morale avec les autres juifs, solidarité que Swann semblait avoir oubliée toute sa vie, et que, greffées les unes sur les autres, la maladie mortelle, l'affaire Dreyfus, la propagande antisémite, avait réveillé. Il y a certains Israélites, très fins pourtant et mondains délicats, chez lesquels restent en réserve et dans la coulisse, afin de faire leur entrée à une heure donnée de leur vie, comme dans une pièce, un mufle et un prophète. Swann était arrivé à l'âge du prophète. Certes, avec sa figure, d'où, sous l'action de la maladie, des segments entiers avaient disparu, comme dans un bloc de glace qui fond et dont des pans entiers sont tombés, il avait bien changé. Mais je ne pouvais m'empêcher d'être frappé combien davantage il avait changé par rapport à moi. Cet homme, excellent, cultivé, que j'étais bien loin d'être ennuyé de rencontrer, je ne pouvais arriver à comprendre comment j'avais pu l'ensemencer autrefois d'un mystère tel que son apparition dans les Champs-Élysées me faisait battre le cœur, au point que j'avais honte de m'approcher de sa pèlerine doublée de soie. Qu'à la porte de l'appartement où vivait un tel être, je ne pouvais sonner sans être saisi d'un trouble et d'un effroi infini. Tout cela avait disparu, non seulement de sa demeure, mais de sa personne. Et l'idée de causer avec lui pouvait m'être agréable ou non, mais n'affectait en quoi que ce fût mon système nerveux. Et de plus, combien il était changé depuis cet après-midi même où je l'avais rencontré, en somme quelques heures auparavant, dans le cabinet du duc de Guermantes. Avait-il vraiment eu une scène avec le prince et qu'il avait bouleversé? La supposition n'était pas nécessaire. Les moindres efforts qu'on demande à quelqu'un qui est très malade deviennent vite pour lui un surmenage excessif. Pour peu qu'on l'expose, déjà fatigué, à la chaleur d'une soirée, sa mine se décompose et bleuit, comme fait en moins d'un jour une poire trop mûre ou du lait près de tourner. De plus, la chevelure de Swann était éclaircie par places et, comme disait Madame de Guermantes, avait besoin du fourreur, avec l'air camfré et mal camfré. J'allais traverser le fumoir et parler à Swann, quand, malheureusement, une main s'abattit sur mon épaule. « Bonjour, mon petit. Je suis à Paris pour 48 heures. J'ai passé chez toi, on m'a dit que tu étais ici. De sorte que c'est toi qui vaux à ma tante l'honneur de ma présence à sa fête. » C'était Saint-Loup. Je lui dis combien je trouvais la demeure belle. « Oui, ça fait assez monument historique. Moi, je trouve ça assommant. Ne nous mettons pas près de mon oncle Palamède. Sans cela, nous allons être happés. » Comme Madame Mollet, car c'est elle qui tient la corde en ce moment, vient de partir, il est tout désemparé. Il paraît que c'est un vrai spectacle. Il ne l'a pas quitté d'un pas. Il ne l'a laissé que quand il l'a eu mise en voiture. Je n'en veux pas à mon oncle. Seulement, je trouve drôle que mon conseil de famille, qui s'est toujours montré si sévère pour moi, soit composé précisément des parents qui ont le plus fait la bombe. À commencer par le plus noceur de tous, mon oncle Charlus, qui est mon subrogé tuteur, qui a eu autant de femmes que Don Juan, et qui, à son âge, ne dételle pas. Il a été question à un moment qu'on me donne un conseil judiciaire. Je pense que, quand tous ces vieux marcheurs se réunissaient pour examiner la question, et me faisaient venir pour me faire de la morale, et me dire que je faisais de la peine à ma mère, ils ne devaient pas pouvoir se regarder sans rire. Tu examineras la composition du conseil. On a l'air d'avoir choisi exprès ceux qui ont le plus retroussé de jupons. En mettant à part M. de Charlus, au sujet duquel l'étonnement de mon ami ne me paraissait pas plus justifié, mais pour d'autres raisons, et qui devait d'ailleurs se modifier plus tard dans mon esprit, Robert avait bien tort de trouver extraordinaire que des leçons de sagesse fussent données à un jeune homme par des parents qui ont fait les fous, ou le font encore. Quand l'atavisme, les ressemblances familiales seraient seules en cause, il est inévitable que l'oncle qui fait la semonce ait à peu près les mêmes défauts que le neveu qu'on l'a chargé de gronder. L'oncle n'y met d'ailleurs aucune hypocrisie, trompé qu'il est par la faculté qu'ont les hommes de croire à chaque nouvelle circonstance qu'il s'agit d'autre chose. Faculté qui leur permet d'adopter des erreurs artistiques, politiques, etc., sans s'apercevoir que ce sont les mêmes qu'ils ont prises pour des vérités il y a 10 ans, à propos d'une autre école de peinture qu'ils condamnaient, d'une autre affaire politique qu'ils croyaient mériter leur haine, dont ils sont revenus, et qu'ils épousent sans les reconnaître sous un nouveau déguisement. D'ailleurs, même si les fautes de l'oncle sont différentes de celles du neveu, l'hérédité peut n'en être pas moins, dans une certaine mesure, la loi causale, car l'effet ne ressemble pas toujours à la cause, comme la copie à l'original. Et même si les fautes de l'oncle sont pires, il peut parfaitement les croire moins graves. Quand M. de Charlus venait de faire des remontrances indignées à Robert, qui d'ailleurs ne connaissait pas les goûts véritables de son oncle, à cette époque-là, et même si c'eût encore été celle où le baron flétrissait ses propres goûts, il eût parfaitement pu être sincère, en trouvant, du point de vue de l'homme du monde, que Robert était infiniment plus coupable que lui. Robert n'avait-il pas failli, au moment où son oncle avait été chargé de lui faire entendre raison, se faire mettre au banc de son monde? Ne s'en était-il pas fallu de peu qu'il ne fût blackboulé au jockey? N'était-il pas un objet de risée par les folles dépenses qu'il faisait pour une femme de la dernière catégorie, par ses amitiés avec des gens, auteurs, acteurs, juifs, dont pas un n'était du monde, par ses opinions qui ne se différenciaient pas de celles des traîtres, par la douleur qu'il causait à tous les siens? En quoi cela pouvait-il se comparer, cette vie scandaleuse, à celle de M. de Charlus, qui avait su jusqu'ici non seulement garder, mais grandir encore sa situation de guermante, étant dans la société un être absolument privilégié, recherché, adulé par la société la plus choisie, et qui, marié à une princesse de Bourbon, femme éminente, avait su la rendre heureuse, avait voué à sa mémoire un culte plus fervent, plus exact qu'on a l'habitude dans le monde, et avait ainsi été aussi bon mari que bon fils. Mais es-tu sûr que M. de Charlus ait eu tant de maîtresses? Demandai-je, non certes dans l'intention diabolique de révéler à Robert le secret que j'avais surpris, mais agacé cependant de l'entendre soutenir une erreur avec tant de certitude et de suffisance. Il se contenta de hausser les épaules en réponse à ce qu'il croyait de ma part de la naïveté. « Mais d'ailleurs, je ne l'en blâme pas, je trouve qu'il a parfaitement raison. » Et il commença à m'esquisser une théorie qui lui eût fait horreur à Balbec, où il ne se contentait pas de flétrir les séducteurs, la mort lui paraissant le seul châtiment proportionné au crime. C'est qu'alors il était encore amoureux et jaloux. Il alla jusqu'à me faire l'éloge des maisons de passe. Il n'y a que là qu'on trouve chaussure à son pied, ce que nous appelons au régiment son gabarit. Il n'avait plus pour ce genre d'endroit le dégoût qu'il avait soulevé à Balbec quand j'avais fait allusion à eux. Et en l'entendant maintenant, je lui dis que Bloch m'en avait fait connaître. Mais Robert me répondit que celle où allait Bloch devait être extrêmement puré, le paradis du pauvre. Ça dépend, après tout. Où était-ce? Je restais dans le vague, car je me rappelais que c'était là, en effet, que se donnait pour un louis cette Rachel que Robert avait tant aimée. « En tout cas, je t'en ferai connaître de bien mieux, où il va des femmes épatantes. » En m'entendant exprimer le désir qu'il me conduisît le plus tôt possible dans celle qu'il connaissait, et qui devait, en effet, être bien supérieure à la maison que m'avait indiqué Bloch, il témoigna d'un regret sincère de ne le pouvoir pas cette fois, puisqu'il repartait le lendemain. « Ce sera pour mon prochain séjour, » dit-il. « Tu verras, il y a même des jeunes filles, » ajouta-t-il d'un air mystérieux. « Il y a une petite demoiselle de... je crois d'Orgeville, je te dirai exactement, qui est la fille de Jean tout ce qu'il y a de mieux. La mère est plus ou moins née, la croix l'évêque, ce sont des gens du gratin, même un peu parents, sauf erreur, à ma tante Oriane. Du reste, rien qu'à voir la petite, on sent que c'est la fille de Jean bien. » Je sentis s'étendre un instant sur la voix de Robert l'ombre du génie des Guermantes, qui passa comme un nuage, mais à une grande hauteur, et ne s'arrêta pas. « Ça m'a tout l'air d'une affaire merveilleuse. Les parents sont toujours malades et ne peuvent s'occuper d'elle. Dame, la petite se désennuie, et je compte sur toi pour lui trouver des distractions à cet enfant. « Oh, quand reviendras-tu ? » « Je ne sais pas, si tu ne tiens pas absolument à des duchesses. » Le titre de duchesse étant pour l'aristocratie le seul qui désigne un rang particulièrement brillant, comme on dirait dans le peuple, des princesses. Dans un autre genre, il y a la première femme de chambre de Madame Putbu. À ce moment, Madame de Surgy entra dans le salon de jeu pour chercher ses fils. En l'apercevant, Monsieur de Charlus alla à elle avec une amabilité dont la marquise fut d'autant plus agréablement surprise que c'est une grande froideur qu'elle attendait du baron, lequel s'était posé de tout temps comme le protecteur d'Oriane et, seul de la famille, trop souvent complaisante aux exigences du duc à cause de son héritage et par jalousie à l'égard de la duchesse, tenait impitoyablement à distance les maîtresses de son frère. Aussi, Madame de Surgy eut-elle fort bien compris les motifs de l'attitude qu'elle redoutait chez le baron, mais ne soupçonna nullement ceux de l'accueil tout opposé qu'elle reçut de lui. Il lui parla avec admiration du portrait que Jacquet avait fait d'elle autrefois. Cette admiration s'exalta même jusqu'à un enthousiasme qui, s'il était en partie intéressé pour empêcher la marquise de s'éloigner de lui, pour l'accrocher, comme Robert disait des armées ennemies dont on veut forcer les effectifs à rester engagés sur un certain point, était peut-être aussi sincère. Car si chacun se plaisait à admirer dans les fils le port de reine et les yeux de Madame de Surgy, le baron pouvait éprouver un plaisir inverse, mais aussi vif, à retrouver ses charmes réunis en faisceau chez leur mère, comme en un portrait qui n'inspire pas lui-même de désir, mais nourri de l'admiration esthétique qu'il inspire, ce qu'il réveille. Ceci venait rétrospectivement donner un charme voluptueux au portrait de Jacquet lui-même. Et en ce moment, le baron l'eut volontiers acquis pour étudier en lui la généalogie physiologique des deux jeunes surgis. « Tu vois que je n'exagérais pas, » me dit Robert. « Regarde un peu l'empressement de mon oncle auprès de Madame de Surgy. Et même là, cela m'étonne. Si Oriane le savait, elle serait furieuse. Franchement, il y a assez de femmes sans aller juste se précipiter sur celle-là, » ajouta-t-il. Comme tous les gens qui ne sont pas amoureux, il s'imaginait qu'on choisit la personne qu'on aime après 1000 délibérations et d'après des qualités et convenances diverses. Du reste, tout en se trompant sur son oncle, qu'il croyait à donner aux femmes, Robert, dans sa rancune, parlait de Monsieur de Charlus avec trop de légèreté. On n'est pas toujours impunément le neveu de quelqu'un. C'est très souvent par son intermédiaire qu'une habitude héréditaire est transmise, tôt ou tard. On pourrait faire ainsi toute une galerie de portraits, ayant le titre de la comédie allemande « Oncle et neveu », où l'on verrait l'oncle veillant jalousement, bien qu'involontairement, à ce que son neveu finisse par lui ressembler. J'ajouterais même que cette galerie serait incomplète si l'on n'y faisait pas figurer les oncles qui n'ont aucune parenté réelle, n'étant que les oncles de la femme du neveu. Les messieurs de Charlus sont, en effet, tellement persuadés d'être les seuls bons maris, en plus les seuls dont une femme ne soit pas jalouse, que, généralement, par affection pour leur nièce, ils lui font épouser aussi un Charlus, ce qui embrouille les chevaux des ressemblances. Et à l'affection pour la nièce se joint parfois de l'affection aussi pour son fiancé. De tels mariages ne sont pas rares et sont souvent ce qu'on appelle heureux. De quoi parlions-nous ? Ah, de cette grande blonde, la femme de chambre de Madame Pudbu. Elle aime aussi les femmes, mais je pense que cela t'est égal. Je peux te dire franchement, je n'ai jamais vu créature aussi belle. Je me l'imagine assez Georgione. Follement Georgione. Ah, si j'avais du temps à passer à Paris, ce qu'il y a de choses magnifiques à faire. Et puis, on passe à une autre. Car pour l'amour, vois-tu, c'est une bonne blague. J'en suis bien revenu. Je m'aperçus bientôt avec surprise qu'il n'était pas moins revenu de la littérature, alors que c'était seulement des littérateurs qu'il m'avait paru désabusés à notre dernière rencontre. « C'est presque tous fripouille et compagnie, » m'avait-il dit, ce qui se pouvait expliquer par sa rancune justifiée à l'endroit de certains amis de Rachel. Il lui avait en effet persuadé qu'elle n'aurait jamais de talent si elle laissait Robert, homme d'une autre race, prendre de l'influence sur elle, et avec elle se moquer de lui, devant lui, dans les dîners qu'il leur donnait. Mais en réalité, l'amour de Robert pour les lettres n'avait rien de profond, n'émanait pas de sa vraie nature. Il n'était qu'un dérivé de son amour pour Rachel, et il s'était effacé de celui-ci, en même temps que son horreur des gens de plaisir et que son respect religieux pour la vertu des femmes. Comme ces deux jeunes gens ont un air étrange! Regardez cette curieuse passion du jeu, marquise, dit monsieur de Charlus en désignant à madame de Surgy ses deux fils, comme s'il ignorait absolument qui ils étaient. Ce doivent être deux orientaux. Ils ont certains traits caractéristiques. Ce sont peut-être des Turcs, ajouta-t-il, à la fois pour confirmer encore sa feinte innocence, témoigner d'une vague antipathie qui, quand elle ferait place ensuite à l'amabilité, prouverait que celle-ci s'adresserait seulement à la qualité de fils de madame de Surgy, n'ayant commencé que quand le baron avait appris qui ils étaient. Peut-être aussi monsieur de Charly, de qui l'insolence était un don de nature qu'il avait joie à exercer, profitait-il de la minute pendant laquelle il était censé ignorer qui était le nom de ces deux jeunes gens, pour se divertir aux dépens de madame de Surgy et se livrer à ses railleries coutumières, comme Scapin met à profit le déguisement de son maître pour lui administrer des volées de coups de bâton. « Ce sont mes fils, » dit madame de Surgy, avec une rougeur qu'elle n'aurait pas eue si elle avait été plus fine, sans être plus vertueuse. Elle eut compris alors que l'air d'indifférence absolue ou de raillerie que monsieur de Charlus manifestait à l'égard d'un jeune homme n'était pas plus sincère que l'admiration toute superficielle qu'il témoignait à une femme n'exprimait le vrai fond de sa nature. Celle à qui il pouvait tenir indéfiniment les propos les plus complimenteurs aurait pu être jalouse du regard que, tout en causant avec elle, il lançait à un homme qu'il feignait ensuite de n'avoir pas remarqué. Car ce regard-là était un regard autre que ceux que Monsieur de Charlus avait pour les femmes. Un regard particulier, venu des profondeurs, et qui, même dans une soirée, ne pouvait s'empêcher d'aller naïvement aux jeunes gens, comme les regards d'un couturier qui décèle sa profession par la façon immédiate qu'ils ont de s'attacher aux habits. « Oh, comme c'est curieux !» répondit non sans insolence Monsieur de Charlus, en ayant l'air de faire à sa pensée un long trajet pour l'amener à une réalité si différente de celle qu'il feignait d'avoir supposée. « Mais je ne les connais pas » ajouta-t-il, craignant d'être allé un peu loin dans l'expression de l'antipathie et d'avoir paralysé ainsi chez la marquise l'intention de lui faire leur connaissance. « Est-ce que vous voudriez me permettre de vous les présenter ?» demanda timidement Madame de Surgy. « Mais, mon Dieu, comme vous penserez, moi je veux bien. Je ne suis pas peut-être un personnage bien divertissant pour d'aussi jeunes gens. » psalmodia Monsieur de Charlus avec l'air d'hésitation et de froideur de quelqu'un qui se laisse arracher une politesse. « Arnulf, Victurnien, venez vite !» dit Madame de Surgy. Victurnien se leva avec décision. Arnulf, sans voir plus loin que son frère, le suivit docilement. « Voilà le tour des fils, maintenant, » me dit Robert. « C'est à mourir de rire. Jusqu'au chien du logis, il s'efforce de complaire. C'est d'autant plus drôle que mon oncle déteste les gigolos. Et regarde comme il les écoute avec sérieux. Si c'était moi qui avais voulu les lui présenter, ce qu'il m'aurait envoyé dinguer. Écoute, il va falloir que j'aille dire bonjour à Oriane. J'ai si peu de temps à passer à Paris, je veux tâcher de voir ici tous les gens à qui j'aurais été sans cela maître des cartes. Comme ils ont l'air bien élevés, comme ils ont de jolies manières, était en train de dire Monsieur de Charlus. Vous trouvez ? Répondait Madame de Surgy, ravie. Swann, m'ayant aperçu, s'approcha de Saint-Loup et de moi. La gaieté juive était, chez Swann, moins fine que les plaisanteries de l'homme du monde. « Bonsoir, nous dit-il. Mon Dieu, tous trois ensemble, on va croire à une réunion de syndicats. Pour un peu, on va chercher où est la caisse. » Il ne s'était pas aperçu que Monsieur de Beaucerfeuille était dans son dos et l'entendait. Le général fronça involontairement les sourcils. Nous entendions la voix de Monsieur de Charlus tout près de nous. « Comment ? Vous vous appelez Victurnien, comme dans le cabinet des antiques ?» disait le baron pour prolonger la conversation avec les deux jeunes gens. « De Balzac, oui, » répondit l'aîné des Surgis, qui n'avait jamais lu une ligne de ce romancier, mais à qui son professeur avait signalé, il y avait quelques jours, la similitude de son prénom avec celui de Lesgrignon. Madame de Surgy était ravie de voir son fils briller, et de Monsieur de Charlus extasié devant tant de science. « Il paraît que Loubet est en plein pour nous, de source tout à fait sûre. » dit à Saint-Loup, mais cette fois à voix plus basse pour ne pas être entendu du général, Swann, pour qui les relations républicaines de sa femme devenaient plus intéressantes depuis que l'affaire Dreyfus était le centre de ses préoccupations. « Je vous dis cela parce que je sais que vous marchez à fond avec nous. » « Mais pas tant que ça, vous vous trompez complètement, » répondit Robert. C'est une affaire mal engagée, dans laquelle je regrette bien de m'être fourré. Je n'avais rien à voir là-dedans. Si c'était à recommencer, je m'en tiendrais bien à l'écart. Je suis soldat, et avant tout pour l'armée. Si tu restes un moment avec Monsieur Swann, je te retrouverai tout à l'heure. Je vais près de ma tante. Mais je vis que c'était avec Mademoiselle d'Ambresac qu'il allait causer. Et j'éprouvai du chagrin à la pensée qu'ils m'avaient menti sur leur fiançailles possible. Je fus rassérénée quand j'appris qu'il lui avait été présenté une demi-heure avant par Madame de Marsante, qui désirait ce mariage, les Ambresac étant très riches. Enfin, dit Monsieur de Charlus à Madame de Surgy. Je trouve un jeune homme instruit, qui a lu, qui sait ce que c'est que Balzac. Et cela me fait d'autant plus de plaisir de le rencontrer là où c'est devenu le plus rare, chez un de mes pères, chez un des nôtres, ajouta-t-il en insistant sur ces mots. Les Guermantes avaient beau faire semblant de trouver tous les hommes pareils, dans les grandes occasions où ils se trouvaient avec des gens nés, et surtout moins bien nés, qu'ils désiraient et pouvaient flatter, ils n'hésitaient pas à sortir les vieux souvenirs de famille. « Autrefois, reprit le baron, aristocrate voulait dire les meilleurs, par l'intelligence, par le cœur. Or, voilà le premier d'entre nous que je vois sachant ce que c'est que Victurnien d'Escrignon. J'ai tort de dire le premier, il y a aussi un Polignac et un Montesquieu, ajouta M. de Charlus, qui savait que cette double assimilation ne pouvait qu'enivrer la marquise. D'ailleurs, vos fils ont de qui tenir. Leur grand-père maternel avait une collection célèbre du XVIIIe siècle. Je vous montrerai la mienne si vous voulez me faire le plaisir de venir déjeuner un jour, dit-il au jeune Victurnien. Je vous montrerai une curieuse édition du cabinet des antiques, avec des corrections de la main de Balzac. Je serai charmé de confronter ensemble les deux Victurniens. Je ne pouvais me décider à quitter Swann. Il était arrivé à ce degré de fatigue où le corps d'un malade n'est plus qu'une cornue où s'observent des réactions chimiques. Sa figure se marquait de petits points bleus de Prusse qui avaient l'air de ne pas appartenir au monde vivant et dégageait ce genre d'odeur qui, au lycée, après les expériences, rend si désagréable de rester dans une classe de sciences. Je lui demandai s'il n'avait pas eu une longue conversation avec le prince de Guermantes et s'il ne voulait pas me raconter ce qu'elle avait été. « Si, me dit-il, mais allez d'abord un moment avec M. de Charlus et Mme de Surgy, je vous attendrai ici. » En effet, M. de Charlus ayant proposé à Mme de Surgy de quitter cette pièce trop chaude et d'aller s'asseoir un moment avec elle, dans une autre, n'avait pas demandé aux deux fils de venir avec leur mère, mais à moi. De cette façon, il se donnait l'air, après les avoir amorcés, de ne pas tenir aux deux jeunes gens. Il me faisait de plus une politesse facile, Mme de Surgy-le-Duc étant assez mal vue. Malheureusement, à peine étions-nous assis dans une baie sans dégagement, que Madame de Sainte-Verte, butte des colibés du baron, vint à passer. Elle, peut-être pour dissimuler ou dédaigner ouvertement les mauvais sentiments qu'elle inspirait à Monsieur de Charlus, et surtout montrer qu'elle était intime avec une dame qui causait si familièrement avec lui, dit un bonjour dédaigneusement amical à la célèbre beauté, laquelle lui répondit, tout en regardant du coin de l'œil M. de Charlus avec un sourire moqueur. Mais la baie était si étroite que Madame de Sainte-Verte, quand elle voulut, derrière nous, continuer de quêter ses invités du lendemain, se trouva prise et ne put facilement se dégager, moment précieux dont M. de Charlus, désireux de faire briller sa verve insolente aux yeux de la mère des deux jeunes gens, se garda bien de ne pas profiter. Une niaise question que je lui posai sans malice lui fournit l'occasion d'un triomphal couplet, dont la pauvre de Sainte-Verte, quasi immobilisée derrière nous, ne pouvait guère perdre un mot. « Croyez-vous que c'est un pertinent jeune homme ? » dit-il en me désignant à Madame de Surgy. « Viens de me demander, sans le moindre souci qu'on doit avoir de cacher ces sortes de besoins, si j'allais chez Madame de Sainte-Verte, c'est-à-dire, je pense, si j'avais la colique. Je tâcherais en tout cas de m'en soulager dans un endroit plus confortable que chez une personne qui, si j'ai bonne mémoire, célébrait son centenaire quand je commençais à aller dans le monde, c'est-à-dire pas chez elle. Et pourtant, qui plus qu'elle serait intéressante à entendre? que de souvenirs historiques, vus et vécus du temps du Premier Empire et de la Restauration. Que d'histoires intimes aussi, qui n'avaient certainement rien de saint, mais devaient être très vertes, si l'on en croit la cuisse restée légère de la vénérable gambadeuse. Ce qui m'empêcherait de l'interroger sur ces époques passionnantes, c'est la sensibilité de mon appareil olfactif. La proximité de la dame suffit. Je me dis tout à coup, « Oh mon Dieu, on a creusé ma fosse d'aisance !» C'est simplement la marquise qui, dans quelques buts d'invitation, vient d'ouvrir la bouche. Et vous comprenez que si j'avais le malheur d'aller chez elle, la fosse d'aisance se multiplierait en un formidable tonneau de vidange. Elle porte pourtant un nom mystique qui me fait toujours penser avec jubilation, quoiqu'elle ait passé depuis longtemps la date de son jubilé, à ce stupide vers dit déliquescent. Ah, verte, combien verte était mon âme ce jour-là! Mais il me faut une plus propre verdure. On me dit que l'infatigable marcheuse donne des garden parties. Moi, j'appellerais ça des invites à se promener dans les égouts. Est-ce que vous allez vous crotter là ? Demanda-t-il à madame de Surgy, qui cette fois se trouva ennuyée. Car voulant feindre de n'y pas aller vis-à-vis du baron, et sachant qu'elle donnerait des jours de sa propre vie plutôt que de manquer la matinée Sainte-Verte, elle s'en tira par une moyenne, c'est-à-dire l'incertitude. Cette incertitude prit une forme si bêtement dilettante et si mesquinement couturière que M. de Charlus, ne craignant pas d'offenser Mme de Surgy, à laquelle pourtant il désirait plaire, se mit à rire pour lui montrer que ça ne prenait pas. J'admire toujours les gens qui font des projets, dit-elle. Je me décommande souvent au dernier moment. Il y a une question de robe d'été qui peut changer les choses. J'agirai sous l'inspiration du moment. Pour ma part, j'étais indignée de l'abominable petit discours que venait de tenir M. de Charlus. J'aurais voulu combler de bien la donneuse de garden party. Malheureusement, dans le monde, comme dans le monde politique, les victimes sont si lâches qu'on ne peut pas en vouloir bien longtemps au bourreau. Madame de Sainte-Verte, qui avait réussi à se dégager de la baie dont nous barrions l'entrée, frôla involontairement le baron en passant. Et, par un réflexe de snobisme qui annihilait chez elle toute colère, peut-être même dans l'espoir d'une entrée en matière, d'un genre dont ce ne devait pas être le premier essai, « Oh, pardon, monsieur de Charlus, j'espère que je ne vous ai pas fait mal !» s'écria-t-elle, comme si elle s'agenouillait devant son maître. Celui-ci ne daigna répondre autrement que par un large rire ironique et concéda seulement un « bonsoir » qui, comme s'il s'apercevait seulement de la présence de la marquise une fois qu'elle l'avait saluée la première, était une insulte de plus. Enfin, avec une platitude suprême, dont je souffris pour elle, Madame de Sainte-Verte s'approcha de moi, et, m'ayant prise à l'écart, me dit à l'oreille « Mais qu'ai-je fait à Monsieur de Charlus ? On prétend qu'il ne me trouve pas assez chic pour lui !» dit-elle en riant à gorge déployée. Je restai sérieux. D'une part, je trouvais stupide qu'elle eût l'air de se croire ou de vouloir faire croire que personne n'était, en effet, aussi chic qu'elle. D'autre part, les gens qui rient si fort de ce qu'ils disent, et qui n'est pas drôle, nous dispensent par là, en prenant à leur charge l'hilarité, d'y participer. D'autres assurent qu'il est froissé que je ne l'invite pas, mais ils ne m'encouragent pas beaucoup. Il a l'air de me bouder. L'expression me parut faible. Tâchez de le savoir et venez me le dire demain. Et s'il a des remords et veut vous accompagner, amenez-le. À tout péché miséricorde. Cela me ferait même assez plaisir, à cause de Madame de Surgy que cela ennuierait. Je vous laisse carte blanche. Vous avez le flair le plus fin de toutes ces choses-là, et je ne veux pas avoir l'air de quémander des invités. En tout cas, sur vous, je compte absolument. » Je songeais que Swann devait se fatiguer à m'attendre. Je ne voulais pas, du reste, rentrer trop tard à cause d'Albertine. Et, prenant congé de Madame de Surgy et de Monsieur de Charlus, j'allais retrouver mon malade dans la salle de jeu. Je lui demandai si ce qu'il avait dit au prince dans leur entretien au jardin était bien ce que Monsieur de Bréauté, que je ne lui nommais pas, nous avait rendu et qui était relatif à un petit acte de Bergotte. Il éclata de rire. « Il n'y a pas un mot de vrai, pas un seul. C'est entièrement inventé et aurait été absolument stupide. Vraiment, c'est inouï, cette génération spontanée de l'erreur. Je ne vous demande pas qui vous a dit cela, mais ce serait vraiment curieux, dans un cadre aussi délimité que celui-ci, de remonter de proche en proche pour savoir comment cela s'est formé. Du reste, comment cela peut-il intéresser les gens, ce que le prince m'a dit ? Les gens sont bien curieux. Moi, je n'ai jamais été curieux, sauf quand j'ai été amoureux et quand j'ai été jaloux. Et pour ce que cela m'a appris, êtes-vous jaloux ? Je dis à Swann que je n'avais jamais éprouvé de jalousie, que je ne savais même pas ce que c'était. Eh bien, je vous en félicite. Quand on l'est un peu, cela n'est pas tout à fait désagréable à deux points de vue. D'une part, parce que cela permet aux gens qui ne sont pas curieux de s'intéresser à la vie des autres personnes, ou au moins d'une autre, et puis parce que cela fait assez bien sentir la douceur de posséder, de monter en voiture avec une femme, de ne pas la laisser aller seule. Mais cela, ce n'est que dans les tout premiers débuts du mal, ou quand la guérison est presque complète. Dans l'intervalle, c'est le plus affreux des supplices. Du reste, même les deux douceurs dont je vous parle, je dois vous dire que je les ai peu connues. La première, par la faute de ma nature qui n'est pas capable de réflexion très prolongée. La seconde, à cause des circonstances, par la faute de la femme, je veux dire des femmes, dont j'ai été jaloux. Mais cela ne fait rien. Même quand on ne tient plus aux choses, il n'est pas absolument indifférent d'y avoir tenu, parce que c'était toujours pour des raisons qui échappaient aux autres. Le souvenir de ces sentiments-là, nous sentons qu'il n'est qu'en nous. C'est en nous qu'il faut rentrer pour le regarder. Ne vous moquez pas trop de ce jargon idéaliste, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup aimé la vie et que j'ai beaucoup aimé les arts. Eh bien, maintenant que je suis un peu trop fatiguée pour vivre avec les autres, ces anciens sentiments si personnels à moi que j'ai eus me semblent, ce qui est la manie de tous les collectionneurs, très précieux. Je m'ouvre à moi-même mon cœur comme une espèce de vitrine. Je regarde un à un tant d'amour que les autres n'auront pas connu. Et de cette collection à laquelle je suis maintenant plus attachée encore qu'aux autres, je me dis, un peu comme Mazarin pour ses livres, mais du reste sans angoisse aucune, que ce sera bien embêtant de quitter tout cela. Mais venons à l'entretien avec le prince. Je ne le raconterai qu'à une seule personne, et cette personne, cela va être vous. J'étais gênée pour l'entendre par la conversation que, tout près de nous, Monsieur de Charlus, revenu dans la salle de jeu, prolongeait indéfiniment. « Et vous lisez aussi ? Qu'est-ce que vous faites ? » demanda-t-il au comte Arnulf, qui ne connaissait même pas le nom de Balzac. Mais sa myopie, comme il voyait tout très petit, lui donnait l'air de voir très loin, de sorte que, rare poésie en un sculptural dieu grec, dans ses prunelles s'inscrivaient comme de distantes et mystérieuses étoiles. « Si nous allions faire quelques pas dans le jardin, monsieur, » dis-je à Swann, tandis que le comte Arnulf, avec une voix éseyante qui semblait indiquer que son développement, au moins mental, n'était pas complet, répondait à monsieur de Charlus avec une précision complaisante et naïve. « Oh, moi, c'est plutôt le golf, le tennis, le ballon, la course à pied, et surtout le polo. » Telle Minerve, s'étant subdivisée, avait cessé, dans certaines cités, d'être la déesse de la sagesse et avait incarné une part d'elle-même en une divinité purement sportive, hippique, Athénée Hippia. Et il allait aussi à Saint-Moritz faire du ski, car Pallas Tritogenéa fréquente les hauts sommets et rattrape les cavaliers. « Ah !» répondit Monsieur de Charlus avec le sourire transcendant de l'intellectuel qui ne prend même pas la peine de dissimuler qu'il se moque, mais qui d'ailleurs se sent si supérieur aux autres et méprise tellement l'intelligence de ceux qui sont le moins bêtes qu'il les différencie à peine de ceux qui le sont le plus, du moment qu'ils peuvent lui être agréables d'une autre façon. En parlant à Arnulf, M. de Charlus trouvait qu'il lui conférait par là même une supériorité que tout le monde devait envier et reconnaître. « Non, me répondit Swann, je suis trop fatigué pour marcher. Asseyons-nous plutôt dans un coin, je ne tiens plus debout. » C'était vrai. Et pourtant, commencer à causer lui avait déjà rendu une certaine vivacité. C'est que, dans la fatigue la plus réelle, il y a, surtout chez les gens nerveux, une part qui dépend de l'attention et qui ne se conserve que par la mémoire. On est subitement là, dès qu'on craint de l'être, et pour se remettre de sa fatigue, il suffit de l'oublier. Certes, Swann n'était pas tout à fait de ces infatigables épuisés qui, arrivés défaits, flétris, ne se tenant plus, se raniment dans la conversation comme une fleur dans l'eau, et peuvent pendant des heures puiser dans leurs propres paroles des forces qu'ils ne transmettent malheureusement pas à ceux qui les écoutent, et qui paraissent de plus en plus abattues au fur et à mesure que le parleur se sent plus réveillé. Mais Swann appartenait à cette forte race juive, à l'énergie vitale, à la résistance à la mort de qui les individus eux-mêmes semblent participer. Frappés chacun de maladies particulières, comme elle l'est elle-même par la persécution, ils se débattent indéfiniment dans des agonies terribles qui peuvent se prolonger au-delà de tout terme vraisemblable, quand déjà on ne voit plus qu'une barbe de prophète surmontée d'un nez immense qui se dilate pour aspirer les derniers souffles, avant l'heure des prières rituelles, et que commence le défilé ponctuel des parents éloignés, s'avançant avec des mouvements mécaniques, comme sur une frise assyrienne. Nous allâmes nous asseoir. Mais, avant de s'éloigner du groupe que M. de Charlus formait avec les deux jeunes surgis et leur mère, Swann ne put s'empêcher d'attacher sur le corsage de celle-ci de longs regards de connaisseurs dilatés et concupiscents. Il mit son monocle pour mieux apercevoir et, tout en me parlant, de temps à autre, il jetait un regard vers la direction de cette dame.